Merci d'écouter Radio Capi. C'est l'heure de vous informer. Blaise Jordan Shindani Kambala.
Radio Capi.
À l'occasion de la journée de l'indépendance, Félix Tshisekedi appelle à un débat serein sur la Constitution. Il rend hommage au père de l'indépendance et affirme avoir transmis la loi référendaire à la Cour constitutionnelle afin qu'elle se prononce sur sa conformité à la Constitution avant sa promulgation. Afrique du Sud, tension autour des immigrés sans papier. Cette vague xénophobe qui touche l'Afrique du Sud a déjà fait 4 morts et 25 000 déplacés cette dernière semaine, selon les autorités. Tandis que les Congolais de Pretoria et Johannesburg redoutent de nouveaux débordements. Vous allez suivre l'un d'eux dans ce journal. Béni, formation sur les preuves numériques pour magistrats et OPJ. Une session organisée par la MONUSCO pour renforcer les compétences judiciaires face aux défis liés aux téléphones et ordinateurs. Pour en parler, nous recevons Kamel Ben El Abreg, conseiller en enquête numérique au sein de la section d'appui à la justice de la MONUSCO. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal de la mi-journée. Le président de la République appelle les Congolais à débattre de la Constitution dans la sérénité, la paix et le respect des institutions. Félix-Antoine Tshisekedi l'a déclaré ce lundi à l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Il a indiqué avoir transmis la loi référendaire à la Cour constitutionnelle afin qu'elle se prononce sur sa conformité à la Constitution avant sa promulgation. Le chef de l'État a également rendu hommage aux pères de l'indépendance ainsi qu'aux martyrs qui ont sacrifié leur vie pour offrir au pays sa souveraineté. Écoutons à présent Félix-Antoine Tshisekedi dans cet extrait choisi par Alain Hirung.
S'agissant de la loi référendaire adoptée par les deux chambres du Parlement, je tiens à rappeler qu'elle relève du fonctionnement normal de nos institutions et du principe de séparation des pouvoirs. Dans une république démocratique, le Parlement débat, délibère et légifère. Le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, exerce les prérogatives que lui confère la Constitution. Les juridictions compétentes, quant à elles, veillent au respect de l'ordre constitutionnel et de l'état de droit. C'est dans cet esprit de coopération interinstitutionnelle et de respect de l'état de droit que j'ai déféré cette loi à la Cour constitutionnelle aux fins d'examen de sa constitutionnalité avant sa promulgation éventuelle conformément à l'article 160 alinéa 3 de notre Constitution. Cette démarche procède d'une conviction républicaine profonde. Dans une démocratie, aucune décision, aussi importante soit-elle, ne saurait s'affranchir des règles, des procédures et des garanties que nous impose la loi fondamentale.
Par ailleurs, le maire de Tshikapa, dans la province du Kasaï, est au cœur d'une vive controverse. Lundi, Faustin Lumulwabu a déchiré publiquement un exemplaire de la Constitution, un geste qu'il assume pleinement, affirmant rejeter le texte de 2006 et soutenir sa révision. La réaction n'a pas tardé. L'Assemblée provinciale du Kasaï a demandé sa suspension immédiate. Pour les députés, l'acte est grave et mérite des sanctions. Les détails avec André Katende Ngalamolomé.
La scène s'est déroulée lundi lors d'une matinée administrative. Devant plusieurs personnes, le maire de Tshikapa a déchiré une copie de la Constitution. Faustin Lumulwabu dit vouloir traduire la parole en acte et soutenir le changement de la loi fondamentale. Une situation qui a aussitôt provoqué une vague d'indignation. Les députés provinciaux réunis en plénière condamnent les gestes. Gérard Ngechi dépose une motion d'information.
Dès lors que ce texte n'est pas encore changé et alors que c'est bien elle qui nous régit, alors nous ne pouvons pas retrancher d'autres papiers. Mais je suis désolé que le maire de la ville puisse déchirer une copie de la Constitution devant le public.
La motion a ensuite été transformée en interpellation avant d'être adoptée par les élus. À main levée, ils ont recommandé au gouverneur du Kasaï de suspendre immédiatement le maire de Tshikapa. Quelques heures plus tard, le gouvernement central est intervenu. Dans un télégramme, le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a prononcé la suspension préventive de Faustin Lumuluabu. Le ministre annonce également l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son endroit pour faute grave. Kananga, André Katendenga Lamulume, Radio Okapi.
À l'occasion justement du 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, Radio Okapi a donné la parole à ses auditeurs. Direction le Congo central, dans la ville portuaire de Matadi, où les avis sont partagés. Certains estiment que le pays a su préserver son indépendance malgré les nombreux défis, tandis que d'autres considèrent que la RDC vit un éternel recommencement sans véritable avancée. On les écoute au micro d'Élise Kavira.
66 ans plus tard, on a l'impression que nous allons de mal en pire, mais sous d'autres formes. De ce que moi j'ai pu voir du haut de mes 25 ans, en tout cas il y a eu beaucoup d'espoir, mais très peu de réalisation.
Par rapport à la souveraineté nationale, le pays a gardé son indépendance malgré plusieurs crises politiques et guerres. Alors par rapport à la croissance des infrastructures, la construction des routes, de ponts, écoles, hôpitaux dans plusieurs provinces, nous les remarquons.
En fait, j'ai comme l'impression que l'objectif de l'indépendance, ce n'est pas atteint en fait. Il y a les politiciens qui pensent qu'à eux, la population souffre, il y a les marches, donc voilà. Dans les années 60, on n'était pas encore né, mais selon l'histoire, voilà, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est clair qu'il n'y a pas de développement.
66 ans après, la République démocratique du Congo est un éternel recommencement. Ce sont les mêmes événements qui se reproduisent. Élections, contestations, rébellions, rien n'avance au sens de la véritable vision des pères fondateur du père de l'indépendance.
Le président en place se bat un peu petit à petit pour arranger les choses, mais les plans sécuritaires, les plans sanitaires, tout est en rouge.
De Matadi au Congo central, Cap Mendat sur Mbujimayi au Kasaï oriental, où les habitants expriment des opinions contrastées. Certains estiment que les bilans du pays s'améliorent depuis l'accession du président Félix Tshisekedi au pouvoir, tandis que d'autres jugent que les 66 années d'indépendance offrent un résultat plutôt mitigé. On les écoute au micro d'Esther Ndalafina.
Non, il n'y a rien qui marche. On pensait qu'avec la venue de Félix au pouvoir, on allait connaître un changement pour que le peuple congolais puisse se sentir à l'aise. Nous avons de l'espoir. Nous avons déjà notre partenaire qui sont les États-Unis. Je crois que dès que la guerre se termine, il va faire de ce pays l'Allemagne d'Afrique comme nous avons fait.
Avec Fatih, ça a évolué un peu quand même parce que nous sommes arrivés dans un niveau où on n'a pas arrivé pendant tout ce temps.
Les bilans étaient négatifs, mais avec l'accession de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on tend vers la positivité.
Mais aujourd'hui, nous traversons une vie un peu stable. Malgré qu'il est un peu agressé à l'Est, il est en train de construire surtout l'étendue de la République du Congo.
Le bilan est à 15% à partir du président que nous avons aujourd'hui. Puisque le temps passait, on ne parvenait même pas à payer les travailleurs. Reconstruire même le pays en question, on n'y songeait pas.
Le bilan est mitigé. Jusque-là mitigé. Pourquoi ? Parce que depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, il n'y a pas eu tellement de changements.
En Ituri, alors que la République démocratique du Congo célèbre le 66e anniversaire de son indépendance, des milliers de personnes déplacées disent ne pas encore goûter au bienfait de cette liberté. Depuis plusieurs années, elles vivent dans des sites de déplacés loin de leur village, dans des conditions humanitaires difficiles. À l'occasion de cette fête nationale, elles appellent le gouvernement à rétablir durablement la sécurité afin de leur permettre de rentrer chez elles. Reportage d'Isaac Remoyope.
La province d'Ituri compte aujourd'hui près de 900 000 personnes déplacées réparties dans une soixantaine de sites et au sein des familles d'accueil selon les organisations humanitaires. Pour de nombreuses familles, l'exil dure depuis 9 ans. Chassées de leur village par les violences des groupes armés, notamment dans les territoires des Djougou, elles continuent de vivre dans des conditions précaires, pas d'assistance alimentaire depuis 2021, pas d'accès à leurs terres agricoles, notamment aussi de la plaine de Savo qui accueille environ 80 000 déplacés. Ces personnes estiment que la véritable l'indépendance passe avant tout par les retours de la paix et de la sécurité dans leur localité d'origine. Emmanuel Ndalo, président d'ici de la plaine de Savo.
Nous n'avons jamais pété les trappes de joie depuis 2017. Nous sommes dans le cadre des déplacés. Nous souffrons, alors nous recommandons au gouvernement le retour dans notre village respectif. Il nous sauve de cette situation. Quitter les trappes de joie qui arrivent, nous trouvons dans notre village.
Les personnes déplacées demandent également que les auteurs des violences commises contre les civils, notamment les massacres ayant coûté la vie à des centaines de déplacés, soient poursuivis et traduits devant les juridictions compétentes. Pour rappel, les retours volontaires et sécurisés des personnes déplacées figurent parmi les priorités du nouveau gouverneur militaire de l'Ituri. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
En Afrique du Sud, ce mardi 30 juin s'annonce sous haute tension. Plusieurs organisations anti-immigration ont fixé, en dehors de tout cadre légal, une date butoir aux immigrés sans papier pour quitter le pays. Depuis plusieurs semaines, une vague xénophobe secoue le pays. Elle a déjà fait 4 morts et provoqué le déplacement de 25 000 personnes selon les autorités. Celles-ci redoutent de nouveaux débordements à l'occasion des rassemblements annoncés aujourd'hui. Plusieurs Congolais que Radio Kapi a contactés, notamment à Pretoria et à Johannesburg, disent que pour l'instant, la situation semble calme, mais ils disent craindre les dérapages dans ce genre de manifestations, comme c'était le cas il y a quelques semaines. On écoute l'un parmi deux, qui a été joint par Alain Irungu-Mushinji.
Alors qu'il est, la situation est plus ou moins calme. Bien sûr, je vous donne les renseignements de là où je suis. Je suis non loin de Union Building, la présidence sud-africaine, ainsi que Sunnyside à Kedja. Et Sunnyside, c'est l'un des points chauds de la ville de Pretoria. Donc, la situation est assez calme maintenant. Il y a un communiqué qui a été publié par la police pour indiquer, notamment ici à Pretoria, l'itinéraire et que vont suivre les manifestants. Donc, il faut dire que c'est une manifestation anti-immigration. Alors, ici, on insiste que c'est l'immigration illégale. Ça, c'est la version des autorités sud-africaines. Ils luttent contre l'immigration illégale. Mais ce que l'on craint, ce sont des dérapages qu'il y a souvent dans ces genres de situations. Selon le communiqué de la police, la marche devait commencer à 10 heures locales et la police a donné également l'itinéraire de la marche et également donné quelques conseils de sécurité, notamment à ceux qui devaient sortir ou stationner son véhicule ou ne pas stationner son véhicule. Bon, vous savez que c'est une situation sécuritaire, hein, donc chacun prend des dispositions à son niveau. Donc je peux dire que pour l'instant, la quasi-totalité de nos ressortissants sont à la maison.
Ici au pays, dans la province du Lualaba, le cadre de concertation de la société civile de la commune de Fungurume dénonce des tirs nourris entendus presque chaque jour. Des blessés atteints par des balles perdues sont signalés dans certains quartiers. Dans une déclaration faite ce mardi, cette structure citoyenne précise que ces crépitements proviennent de la concession de l'entreprise Tenke Fungurume Mining. Les gardes chargés de la protection du site tireraient à balles réelles pour empêcher les creuseurs artisanaux clandestins d'y pénétrer. Les détails avec Paulin Munanga.
La société civile de Fungurume précise que les blocs BCP dans le quartier Mwelampande, Mutende et Dipeta sont les plus exposés par ces tirs de balles. Elle précise que des éléments de la police des mines et des militaires des FARDC commis à la sécurisation de la concession de TFM tirent ces balles pour disperser les creuseurs artisanaux qui s'introduisent clandestinement dans cette concession pour voler des minerais. Et cette situation crée une psychose au sein de la population, indique la société civile. Cette structure citoyenne appelle les autorités à agir rapidement. Quelques habitants de Fungurume expriment leur désarroi. Il y a de plus en plus de coups de feu. Nous avons des petits enfants qui sont exposés. Nous manquons la paix. Que les autorités trouvent une solution. Nous vivons dans une insécurité totale. Ces jours-ci, il y a des balles qui sifflent et qui percent les toitures des maisons. Aucune réaction pour le moment des responsables de TFM, de la bourgmestre de Fungurume, ni des autorités au niveau provincial du Lualaba. La société civile de Fungurume souligne que les creuseurs artisanaux n'ont pas de zone d'exploitation artisanale et ils se sentent obligés de pénétrer clandestinement dans la concession de TFM qu'ils considèrent comme étant leur moyen de survie. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Publication des résultats de l'examen d'État session 2026. Le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a rendu public ce lundi 29 juin la liste des meilleurs lauréats de provinces éducationnelles suivantes. Kinshasa Plateau, Sud Ubangi 1, Nord Kivu 2, Lualaba 1, Kasai 1, Tchopo 1 et Lomami 2. Parmi ces lauréats, Lualaba 1, option agriculture générale, la lauréate, élève de l'ITA Lumière du Christ, a obtenu 75%. Nord Kivu 2, option pédagogie générale, la lauréate, élève de l'Institut Malkiawa Bingu, a obtenu 74%. Kinshasa Plateau, option coupe et couture, la lauréate, élève du complexe scolaire Sainte-Marie de la Sagesse, a obtenu 81%. D'autres résultats avec vous, Alain Irung.
Lualaba 1. Option vétérinaire, ITA Lumière du Christ, la lauréate à 73%. Lualaba 1, option métallurgie, complexe scolaire Les Érudits, le lauréat à 83%. Nord Kivu 2, option agriculture générale, Institut Kirimavolo, la lauréate à 79%. Nord Kivu 2, option secrétariat administration, Institut Kiaramba, la lauréate à 73%. Kinshasa Plateau, option agriculture générale, Institut Mwenika, la lauréate à 72%. Chopo 1, option sociale, lycée technique Mapendano, la lauréate à 80%. Chopo 1, option agriculture générale, Hope International School, la lauréate à 71%. Kasai 1, option électricité, ITP Olive Lemba, la lauréate à 75%. Lomami 2, option pédagogie générale, ITP Mutuale, le lauréat à 79%. Lomami 2, option coupe et couture, Institut CFAMU, la lauréate à 75%.
Vous pouvez retrouver les résultats des meilleurs lauréats de l'examen d'état session 2026 sur www.radiocapi.net.
Actualité internationale.
Au Congo-Brazzaville, la Likwala Nord, le plus grand et le plus enclavé des départements du Congo, validé le 22 juin dernier son rapport d'exercice local volontaire qui consiste à évaluer ses points forts et ses points faibles. Mais à Infondo, son chef-lieu, avoir de l'eau potable est un casse-tête, même si l'État commence à y construire des forages. Officiellement, 40% des habitants y ont accès à l'eau potable.
L'invité.
À Beni, dans le Nord Kivu, magistrats et officiers de police judiciaire viennent de clore une formation consacrée à l'identification, l'extraction et la conservation de preuves électroniques. Organisée par la section d'appui à la justice de la MONUSCO, cette session avait pour objectif de renforcer les compétences des acteurs judiciaires face aux défis liés à la collecte de preuves numériques, notamment à partir des téléphones, ordinateurs et autres supports de stockage. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Kamel Ben El Albreg, conseiller en enquête numérique au sein de la section d'appui à la justice de la MONUSCO. Il répond aux questions de Marc Maroufimbo.
Kamel Ben El Albreg, bonjour.
Bonjour.
Question toute simple, c'est quoi la criminalité numérique?
D'accord, merci pour cette invitation. Pour cette opportunité pour qu'on exprime les activités de la JSS CAP de Beni. Tout d'abord, je tiens à exprimer toute ma gratitude aux collègues formateurs et experts aussi en investigation numérique, Rafael Ahnouch, qui a fait le déplacement depuis Kinshasa afin de partager son expertise à travers cette formation. Pour la première question, c'était qu'est-ce que c'est la criminalité numérique? Ou plus précisément, cybercriminalité, qui désigne l'ensemble des infractions commises à l'aide d'ordinateurs, de réseaux ou d'Internet. Ces crimes incluent des actions telles que le piratage, le vol de données, la fraude en ligne et les cyberattaques dirigées contre les infrastructures critiques. Ils peuvent aussi viser des individus, des entreprises ou des États, avec des conséquences parfois catastrophiques. La caractéristique principale de la cybercriminalité est son échelle globale, facilitée par l'anonymat, l'utilisation des crypto-monnaies et la portée transfrontalière des réseaux.
Et alors, pourquoi cette formation en ces moments précis?
En effet, l'évolution rapide des technologies, de l'information, de la communication a profondément transformé notre environnement judiciaire. Donc aujourd'hui, une part importante des informations utiles aux enquêtes se trouve dans les téléphones, par exemple, mobiles, les ordinateurs, les applications de messagerie, les réseaux sociaux, les supports de stockage et les différents systèmes numériques utilisés au quotidien. Parallèlement, les auteurs d'infractions recourent de plus en plus à ces technologies dans la préparation, la commission ou la dissimulation de leur activité criminelle. Cette réalité impose aux acteurs de la justice et particulièrement à la justice militaire de développer des compétences adaptées afin d'identifier, collecter, analyser et préserver les preuves électroniques dans le respect des exigences légales et procédurales.
Alors, avec l'évolution des technologies et du numérique, et sachant que les criminels ont toujours une longueur d'avance sur la loi, croyez-vous que cette formation pourra réellement aider ces magistrats dans leurs enquêtes?
Certainement, l'objectif de l'organisation de cette formation est de renforcer les capacités techniques et procédurales des magistrats militaires, des officiers de police judiciaire et des inspecteurs de police judiciaire aussi, à savoir approfondir les connaissances sur le cadre légal applicable aux preuves électroniques, se familiariser avec les techniques d'acquisition forensique sur les appareils mobiles, d'exploiter des outils open source spécialisés et de développer les compétences nécessaires à la documentation et la présentation des preuves électroniques recevables devant les juridictions.
Voilà, Kamel Ben El Alpreg, merci.
Merci bien pour cette invitation.
C'était notre invité Kamel Ben El Abreg, conseiller en enquête numérique au sein de la section d'appui à la justice de la MONUSCO qui s'entretenait avec Marc Marofimbo. Et c'est ce qui met fin à notre édition du journal parlé de la mi-journée, coordonnée par Élisée Chikota-Chivueta, supervisée par Alain Hirong-Monchinge et mise en onde par Dieudonné Nyangasa Wanyangasa. Ce journal est à suivre sur notre page TikTok et à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net. Restez branchés sur la radio de la paix si vous voulez suivre une information vérifiée et traitée avec professionnalisme.